Papillon de Nuit, un festival qui a réussi depuis plus de 20 ans maintenant. Il anime les week-ends de Pentecôte à Saint-Laurent-de-Cuve dans le Sud-Manche. Mais quelle est l'histoire derrière cet événement? Comment s'est-il monté? Qui sont les personnes qui le font vivre? Dans ce podcast Papillon de Nuit, Petit Village, un festival XXL, on va le découvrir. 36 groupes ou artistes vont venir se produire sur les 4 scènes du site. Comment les faire venir? Est-ce que c'est facile? Le directeur du festival, Robin Godet, nous dévoile tout.
Papillon de Nuit, Petit Village, Festival XXL. Un podcast by Tendance Ouest.
Comment est-ce qu'on fait venir des artistes à Saint-Laurent-de-Cuve, qui est quand même pas le village le plus connu de France?
Je crois que c'est au-delà de Saint-Laurent-de-Cuve, c'est l'histoire du festival maintenant qui attire les artistes. Déjà, on va pas se mentir, on peut les accueillir parce qu'on a les moyens financiers de les accueillir aussi. Hein, parce qu'on parle d'accueillir, mais en fait, on les paye quand même, hein, pour qu'ils viennent faire leur concert au festival. Donc déjà, c'est une première chose. Et puis le festival, au bout, on est à la 23e édition. Aujourd'hui, on a réussi à construire en fait un festival qui a une belle image auprès du public, mais aussi auprès des professionnels du secteur culturel. Papillon de Nuit, un festival qui est relativement bien identifié par tout le secteur culturel et aussi par les artistes. Donc aujourd'hui, les artistes, ils savent que Papillon de Nuit, c'est un festival où ils vont être bien accueillis. On a des moyens, on met en place des moyens techniques, des moyens d'accueil qui sont bien. Et puis on a un public qui est fantastique. Donc voilà, c'est aussi l'image du festival. Et ça, vous pourrez croiser des artistes ou des professionnels du spectacle dans différents moments de l'année. C'est vrai, c'est ce qu'ils disent. Papillon Nuit, on sait qu'il y a un public qui est hyper, hyper chaleureux, qui donne le change aux artistes. Donc souvent, c'est des concerts qui se passent très, très bien. Et donc on a cette belle image dans le milieu, quoi.
Le cadre aussi, justement, un festival assez rural, est-ce que ça peut être parfois aussi aujourd'hui un argument?
Ouais, ça peut. Alors, particulièrement ces dernières années où on a quand même... sur les festivals, il y a beaucoup de festivals qui se sont privatisés, j'ai envie de dire. Certains ont été rachetés par des grands groupes. Donc c'est vrai que nous, on essaie de garder un côté convivial quand même dans notre accueil, même si, encore une fois, on met en place des moyens techniques et logistiques importants et professionnels. Mais bon, voilà, aujourd'hui, ça va toujours être... à la cantine des artistes, ça va être des bénévoles, des élèves du lycée hôtelier Marland à Granville qui vont servir les artistes. Donc ça, c'est des petites choses. Ils disent, ah ouais, tiens, ça, c'est un peu c'est pas un catering totalement professionnel, et ce qui fait un petit peu la différence des fois dans l'expérience. Les artistes, ils passent tout l'été, ils sont tous les week-ends, ils font 2, 3, 4 festivals de juin à août. Donc l'idée, c'est faut aussi singulariser. Et nous, notre carte, c'est ça, c'est dire, bon, voilà, les gens qui vont vous aider à décharger votre camion, ça peut être des bénévoles. Mais par contre, après, une fois que vous êtes sur le plateau, la personne qui va vous brancher, l'accueil son, l'accueil lumière, l'accueil... Enfin, tout ça va être géré par des professionnels. Donc, faut trouver le juste milieu entre le professionnalisme et la convivialité.
Petit Village, Festival XXL, c'est le podcast des fans du Festival Papillon de Nuit.
Les artistes restent un petit peu avant, après, pendant le festival, peut-être pas tous, peut-être que certains.
Dans ma mémoire, je crois pas que ce soit passé déjà, en fait. En général, ils passent la journée, en fait, ils arrivent le matin, ils repartent dans la nuit. Mais ils sont en tournée, hein, donc souvent ils ont un concert la veille et un concert le lendemain. Donc c'est difficile pour eux de faire du tourisme.
D'où l'importance aussi de bien recevoir pour que, certes c'est le travail, mais qu'ils puissent avoir des temps de repos aussi, l'inclure dans leur planning de journée quand ils sont là.
Ouais, tout à fait. Donc là, nous aujourd'hui, on a sur l'accueil, il y a des zones pour se poser. Ils ont des loges, évidemment. Ils ont un petit accueil bar. Le fait de dormir dans des bus ou faire beaucoup de route et tout, ils ont le dos un peu cassé. Donc on a un ostéo qui peut intervenir. On propose des petits services comme ça pour juste qu'ils soient bien et qu'ils fassent le meilleur concert le soir.
C'est l'un des premiers festivals quasiment de la saison, en tout cas dans la région. Ça joue aussi sur la manière de faire venir des artistes?
Ah oui, ça peut, ouais. Alors nous, on est toujours sur le week-end de la Pentecôte, et du coup, on varie entre les dates, c'est entre mi-mai et début juin. Et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu plus difficile, notamment pour les artistes internationaux, de les attirer, enfin de les faire venir sur le mois de mai, parce que des fois, ils n'ont pas encore entamé leur tournée. Leur tournée de festival. Il faut savoir qu'il y a une temporalité pour les tournées de salles et les tournées de festival pour les artistes, et souvent les kits techniques ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a quand ils sont en tournée de salle, ils font pas de festival entre les dates en salle, parce que logistiquement c'est compliqué pour eux de gérer ça. Des fois ça peut arriver que un artiste soit encore en tournée de salle et du coup il soit pas venir pour le festival.
Est-ce que au bout de 23 éditions, il y a des artistes qui demandent à venir à revenir sans que vous ayez pensé pour une édition?
Ah ben nous, on est très très sollicité par, alors pas par les artistes en direct, mais par leurs producteurs, leurs tourneurs. Donc là, on est très sollicité, tous les producteurs de France, voire même de l'étranger, qui veulent que leur artiste passe à Papillon Nuit. Puis après, à nous de faire notre choix. Il y a le choix, nous, en tant que programmateurs, mais il y a aussi toutes les contraintes de logistique et de calendrier, en fait, qui rentrent, et budgétaires qui rentrent en compte, évidemment.
Écoutez, Petit Village, Festival XXL, le podcast sur la grande aventure du festival Papillon de Nuit sur vos plateformes préférées.
Pour faire venir des artistes, il y a la qualité de l'accueil humain, convivial, l'accueil technique, important aussi finalement.
Ouais, c'est prépondérant. J'ai envie de dire, c'est presque ce qu'il y a de plus important, l'accueil technique, parce que quand la technique marche pas, ça entache directement le concert. L'objectif dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée en tant qu'organisateur, en tant que producteur de spectacle, tout ça, c'est à la finalité, c'est un concert qui se passe bien. Donc le but c'est d'emmener le concert et que les gens passent un bon moment. Donc si et la technique, c'est primordial pour ça, parce que on peut pas se permettre un problème technique pendant le spectacle. Ça peut arriver malheureusement, mais en tout cas, faut cohabiter. Aujourd'hui, accueillir nous les productions sont de plus en plus importantes. C'est-à-dire les artistes ont de plus en plus de demandes. Moyens en termes d'écran, d'éclairage, d'effets spéciaux, de pyrotechnie pour certains, enfin voilà. Donc il y a des prods qui sont de plus en plus longs, donc des temps de montage de plateaux qui sont de plus en plus longs. Et en festival, il faut cohabiter avec les autres artistes qui jouent sur la même scène. Donc voilà, donc, ce qui crée des fois, je vais pas dire des tensions, mais en tout cas, il faut manœuvrer là-dessus pour s'assurer que tout le monde ait le temps de montage dont il a besoin et d'installation dont il a besoin pour que son concert se passe bien.
Et les artistes et producteurs, ils en pensent quoi? Eh bien, j'ai posé quelques questions à Samuel Capu, le directeur général de Bleu Citron. C'est une entreprise qui produit des artistes et organise leurs tournées. Ce sont eux qui gèrent par exemple Big Flo et Oli, Carbone, La Petite Culotte, Supreme NTM ou encore 3 Cafés Gourmands. Alors, première question. Quelle image a-t-il de Papillon de Nuit?
Moi, je suis Aveyronnais, c'est reculé, hein. C'est un milieu rural aussi. Et je travaillais en tant que bénévole il y a plus de 25 ans sur un festival qui s'appelait Cap Festival et qui était comme Saint-Laurent-de-Cuve en milieu rural. C'était un challenge, j'amenais une scène de monter tout ça et il fallait l'élan de tout un village. Et c'est vrai que j'ai le souvenir, un vague souvenir flou que les présidents et les patrons, un peu les papas du festival à l'Aveyron, qui s'appelait Cap Festival, nous parlaient de festivals cousins comme Papillon de Nuit ou Musique à la Rue à Luxé, qui était un exploit de tout un village et multigénérationnel. Et pour moi, c'est ça, Saint-Laurent-de-Cuve, c'est un village et c'est multigénérationnel et c'est une région qui fait ça. Et ça, c'est ça qui est génial, quoi.
C'est quelque chose qui, vous, en tant que tourneur, vous aimez envoyer vos artistes sur ce type de festival?
Alors après, en tant que tourneur, c'est vrai que si on regarde la carte des concerts français, on a l'habitude de passer dans les grandes villes. Et c'est vrai que ça permet de passer stratégiquement en dehors des grandes villes, ça permet de toucher un public très large. Et après, c'est un festival qui compte dans la carte des festivals français, quoi. C'est dans les 40 plus gros festivals, quoi. Papillon de Nuit pour nous, c'est une étape obligée.
Papillon de Nuit, Petit Village, Festival XXL. Un podcast by Tendance Ouest.
Comment est-ce que vous avez-vous perçu cette évolution du festival de quelque chose qui était quand même tout petit il y a 23 ans maintenant, en 2001, et qui aujourd'hui accueille sur 3 jours quasiment 100 000 personnes, quelque chose que vous avez beaucoup vu dans le milieu des festivals, ou finalement c'est une belle évolution quand même?
C'est une belle évolution, une évolution rare. C'est-à-dire que des festivals de cette génération-là qui ont réussi à tenir, à garder l'identité, sans être privatisé, sans passer comme d'autres festivals par des mains de major, hein. C'est un exploit. C'est un festival qui a su se professionnaliser, mais rester associatif dans l'œil des artistes. C'est vrai que quand on arrive, on sent ce village qui porte le festival. Et ça ramène une âme. Les deux éléments de Papillon de Nuit, quand on arrive, c'est le catering, il est incroyable, on est bien accueilli. Il y a cet espace pro aussi, là où on va boire des coups, on voit tout le festival qui est génial. Et de là, c'est vrai qu'on voit tout le travail de barriérage qui est hallucinant. c'est vrai que ouais, c'est ça qu'on voit. Et ça, c'est un festival qui a réussi à tenir ça dans le temps et à tenir, à passer sur des grosses scènes, à accueillir des grosses machines internationales. C'est très, très rare, en fait.
Il y a des artistes qui vous disent « Oh, celui-là, dès que vous pouvez me booker dessus, vous n'hésitez pas » ou ils sont moins sur les festivals dans le choix, ils se laissent porter par les programmateurs qui les choisissent.
Au départ, sur une première tournée, les artistes, ils ne connaissent pas forcément. Mais quand même, au fur et à mesure, ils sont déjà venus une fois, ça fait partie des festivals majeurs demandés. Pourquoi ? Parce que c'est souvent le premier festival de l'année, donc il marque. Et c'est un festival clé qui est très, très bien organisé et où il y a énormément de personnes, donc... il est demandé très clairement lors des premières réunions. Et après, il y a les artistes du coin, on va dire, ou on peut dire du coin, mais je me rappelle les dernières réunions de Naman quand on parlait des festivals d'été. Les Papillons de Nuit, c'était avant tout, quoi. C'était le premier à demander. C'est encore plus important pour les artistes normands et bretons même.
Pour se roder aussi, c'est pas mal parce que vu que c'est le premier, ça permet de tout le travail en amont qui a été de répétition, de bureau, de studio, bah, ça permet de faire un premier test et un beau premier test.
Ouais, et c'est souvent un festival à pression parce que on croit que c'est facile de passer de salle à festival et c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on a 2 heures de show qu'on doit réduire entre 50 minutes et 1h10. Donc il faut choisir les titres, choisir les bons titres, l'organisation. La technique n'est pas la même, parce qu'on n'a pas le même temps pour s'installer. Donc il y a quand même une certaine pression sur ce festival-là.
Justement, quelle est l'importance de ce festival pour les artistes locaux ? Fat Babs, de son vrai nom Benjamin Jeanne, est producteur de musique et DJ, et il est originaire de Cuves, juste à côté de Saint-Laurent-de-Cuves.
J'ai tout simplement participé, j'avais 14 ans, j'avais été avec mes parents à la première édition du festival, donc en 2001 si je ne me trompe pas. À cet âge-là, je découvrais tout simplement les festivals et la musique. Et j'ai tout de suite adoré le concept du festival, d'être de cet endroit de liberté ultime, de joie, de fête. J'ai un grand souvenir de regarder une scène, peut-être pas à la première édition, mais parce que j'ai dû en faire 17, je pense, en tout. Donc j'y étais vraiment beaucoup de fois. Et j'ai vraiment souvenir de regarder une scène et de me dire ouais, « ça me plaît ». Je commençais à aborder la musique et... de regarder une scène et de me dire peut-être qu'un jour j'arriverai à monter dessus moi aussi.
Et alors quand vous êtes monté dessus, c'est quelle sensation ?
Moi je suis monté dessus grâce à Naman la première fois, si je me trompe pas c'est en 2014 et on avait déjà fait pas mal de scènes avant, donc j'avais déjà pu expérimenter différentes scènes, mais de pouvoir monter sur celle des Papillons, ça a été un moment tout simplement anthologique. J'en ai les souvenirs plein la tête. Je vois encore toute ma famille. Il y avait mes parents sur le côté de scène, plein d'amis dans la foule. Enfin voilà, c'est le festival, je le connais par cœur et j'avais jamais vu le chêne de cet emplacement. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un chêne en plein milieu du festival. Et du coup, de la scène, on le voit vraiment bien. Donc c'était vraiment un souvenir incroyable.
Papillon de nuit, rencontre, reportage, coulisses. Tendance Ouest vous emmène dans les coulisses du plus grand rendez-vous musical de la Manche.
Est-ce qu'il a des particularités, ce festival, par rapport à d'autres que vous avez pu faire ?
Franchement, en fait, je dirais l'esprit, tout simplement, l'esprit du festival, la convivialité, le fait de s'être créé un petit peu de zéro, façon de parler, parce que les premières éditions, il y avait peut-être... 5 000 personnes, je sais pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui a évolué, donc qui a évolué avec le temps, qui a évolué avec ses bénévoles. En fait, c'est vraiment typiquement, pour moi, le genre de festival qui vend des tickets sans même annoncer d'artiste. Et ça veut dire que les gens sont attachés autant au festival qu'à la programmation. Et c'est vraiment ce que j'admire dans le monde des festivals, pour en avoir fait beaucoup. Il y a des festivals qui se créent et du jour au lendemain arrivent avec des programmations énormes. Et c'est pas le cas des Papillons de Nuit. Les Papillons de Nuit sont créés... ont monté progressivement et voilà, le public est monté avec, les gens sont amoureux du festival en lui-même. On fait les Papillons comme on ferait un événement, c'est ça, c'est la programmation, quoi qu'il arrive, on viendra. Et ça veut dire qu'il y a de l'amour. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique.
Ce côté justement, avec il y a 1500 bénévoles qui permettent aux autres de faire la fête, mais est-ce que ça se ressent, cette importance des bénévoles dans ce festival ?
Bah ouais, c'est quelque chose qu'on ressent forcément, nous. Moi, j'ai souvenir que, par exemple, la dernière fois qu'on est venu avec Naaman, on avait fait un été de 20 à 25 festivals. Et bon, moi, je suis le seul de la troupe. Quand on tournait, on était 17, à être vraiment affilié avec le cœur à ce festival. Et je sais que quand on est reparti, ils ont tous adoré. Parce que voilà, ça, il y a un respect envers les bénévoles. Mon père a été bénévole pendant des années. Il faisait le parking. Et je sais que voilà, c'est les gens du village vivent pour ça. Il y a des personnes qui prennent leurs vacances, par exemple, pour être bénévoles au Papillon de Nuit ou qui vont prendre leur week-end. Et tout ça, en fait, ça se ressent quand on est artiste. On ressent que les bénévoles sont heureux. Cette sensation, cette ambiance, elle se transmet jusqu'aux artistes qui montent sur scène.
Est-ce que c'est envisageable maintenant que vous êtes artiste et que vous vous tournez de revenir, alors pour être soit spectateur, soit même bénévole, ou c'est juste pas compatible maintenant?
J'ai la chance de revenir en tant qu'artiste cette année. Donc du coup, la question se pose pas trop si je vais être bénévole, mais en tout cas, je sais par exemple qu'il y a 2-3 ans, j'y suis allé en tant que spectateur.
Incognito.
Ouais, exactement. J'ai pris mon ticket comme tout le monde.
Et voilà, vous savez presque tout du lien entre le festival et les artistes. Dans le prochain numéro, je vais vous présenter les bénévoles qui font vivre ce festival et notamment la fine équipe du mardi.
Écoutez, Petit Village, Festival XXL, le podcast sur la grande aventure du festival Papillon de Nuit sur vos plateformes préférées.